L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et voici comme chaque semaine l'actualité de ces derniers jours avec les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. Et d'abord cette manœuvre au Mali, des concertations organisées par la junte au pouvoir avec des organisations qui lui sont acquises. Et elle préconise la dissolution des partis politiques, Nicolas Sûr, plus de partis et par ailleurs le maintien à la présidence du chef de la junte.
Oui, le général Assimi Goïta deviendrait président de la République pour 5 ans. Le mandat serait renouvelable, le tout sans passer par la case élection.
Au Canada, les libéraux ont remporté les élections fédérales de lundi dernier, Nadim Moubarak.
Oui, et le premier ministre Mark Carney va diriger un gouvernement libéral minoritaire.
Le gouvernement suisse l'a décidé cette semaine. Les accords négociés avec l'Europe seront soumis au peuple, mais au peuple seulement, Pierre Anchoffat.
Il ne sera en effet pas nécessaire qu'une majorité de cantons soit dans le camp du oui, une stratégie politique pour limiter le pouvoir de blocage des petits cantons souvent réfractaires sur la question européenne.
On l'attendait depuis de longues années à Liège, en Belgique. Le tram est entré en fonction cette semaine. Il permet à la cité ardente, comme on l'appelle, de rejoindre le réseau des villes européennes qui modernisent ou réintroduisent ce type de transport. Jacques Crémers.
Oui, après Bruxelles, mais aussi Strasbourg, Bordeaux, Lisbonne ou encore Budapest, le tram a donc fait son apparition en bord de Meuse, à Liège. Les passagers étaient plutôt enthousiastes, curieux aussi, après des années d'embarras.
Enfin, nous serons à Chambéry pour évoquer la fête du travail en France. Un 1er mai, jour férié pour pas mal de pays cette semaine, mais pas pour tous. Et nous verrons qu'en France, eh bien, tout le monde ne peut pas forcément travailler sous peine d'amende. Une consultation des forces vives orchestrée par les autorités et boycottée par l'opposition, donc tout d'abord au Mali. Nicolas, elle recommande à la fois la dissolution des partis politiques et le maintien à la présidence du général Assimi Goïta.
Oui, pas d'élection avant la pacification du pays, autant dire avant longtemps, dans un Mali en guerre depuis déjà 15 ans contre plusieurs groupes djihadistes et rebelles, loin d'être affaiblis. En attendant, le général Assimi Goïta est durablement installé à la tête de l'État. Il passe de président de la transition à président de la République pour 5 années renouvelables à compter de cette année. Les militaires putschistes avaient pris le pouvoir en 2020. La totalité des partis politiques existants doit être dissous. Les conditions exigées pour en créer de nouveaux sont drastiques. Leurs financements publics sont supprimés, tout comme le statut de chef de file de l'opposition. Les chefs traditionnels ou religieux, ainsi que les membres de la société civile, ont interdiction de se présenter aux élections, lorsque les autorités les jugeront possibles. Toutes ces recommandations doivent encore être officiellement validées par le général Assimi Goïta. Certaines nuances ne sont donc pas à exclure.
Oui, cela dit, le Conseil des ministres a adopté sans attendre le projet de loi qui abroge l'actuelle charte des partis politiques.
Oui, le projet de loi doit désormais être voté par le Conseil national de transition qui fait office de parlement depuis le premier coup d'État. La Cour constitutionnelle pourrait également être saisie puisque la formation et les activités des partis politiques sont garanties par la Constitution. Mais ces institutions ne devraient pas poser de problème, toutes deux étant acquises aux militaires au pouvoir. Les partis, eux, dénoncent des concertations cousues de fil blanc et assurent ne pas vouloir se laisser faire.
À propos d'élections et de partis, les Canadiens ont fait leur choix lundi dernier. Le Parti libéral de Mark Carney formera le prochain gouvernement à Ottawa, Nadi.
Oui, et ce sera un gouvernement minoritaire. Les libéraux ont toutefois obtenu une minorité forte, raflant 168 sièges dans 343 circonscriptions. Pour former un gouvernement majoritaire, ils avaient besoin de 4 sièges de plus. Le Parti conservateur du Canada a quant à lui obtenu 144 sièges. Mais la défaite de son chef, Pierre Poilievre, dans sa circonscription, soulève des questions sur son avenir. Le Bloc québécois, qui a remporté 23 sièges, et le nouveau Parti démocratique 7, pensent leur plaie après des résultats décevants. Le NPD a d'ailleurs connu la défaite la plus cuisante de son histoire, en perdant plus des 2/3 de ses sièges. Son chef, Jagmeet Singh, a annoncé qu'il va quitter son poste à l'issue de cette défaite.
Et la victoire des libéraux leur permet donc d'obtenir un 4e mandat consécutif, Nadi.
Tout à fait, ce qui est très rare en politique canadienne. Et maintenant qu'il a gagné, Mark Carney devra négocier avec le président des États-Unis sur la question tarifaire.
Les défis devant nous sont intimidants. Et c'est normal. Les grands changements, comme ceux que nous vivons, sont toujours inquiétants. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en vous. J'ai confiance au Canada.
Et le chef libéral n'a pas perdu de temps. Il s'est entretenu avec Donald Trump au lendemain de sa victoire électorale.
Alors, est-ce qu'on sait ce qui s'est dit lors de cet appel téléphonique ?
Eh bien, selon le bureau du Premier ministre, les deux hommes ont convenu de l'importance pour le Canada et les États-Unis de travailler ensemble en tant que nation indépendante et souveraine dans le but d'améliorer la situation des deux pays. Ils ont aussi l'intention de se rencontrer en personne prochainement. Le président Trump a aussi commenté l'entretien en qualifiant le chef libéral d'homme très gentil, ajoutant qu'il l'avait félicité pour sa victoire de lundi.
Les Canadiens ont voté, les Suisses devront, eux, voter une nouvelle fois sur leur relation avec l'Union européenne. Pierre-Anne, ce sera sans la double majorité du peuple et des cantons. Alors expliquez-nous tout d'abord cette particularité de la démocratie helvétique.
Eh bien, pour faire simple, quand on veut modifier la Constitution, il faut franchir la barrière de cette double majorité, obtenir un oui du souverain, mais aussi de la majorité des cantons. C'est en quelque sorte une protection pour que les grands cantons, souvent plus ouverts et plus progressistes, n'imposent pas leur vue aux petits cantons plus conservateurs. Une manière donc de préserver la paix confédérale. Et les citoyens de ces petits cantons ont jusqu'ici bloqué la volonté du peuple 10 fois. Par exemple, sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers ou le soutien aux crèches. Le plus récent date de 2020, lors du rejet des multinationales responsables à qui une courte majorité du peuple voulait imposer des normes éthiques et environnementales.
Et donc, pour la question européenne, le gouvernement veut éviter cette capacité de blocage des citoyens des petits cantons.
Il estime que la double majorité n'est pas nécessaire, la Constitution n'est pas amendée par ces accords et il n'est pas question d'adhésion. D'ailleurs, tous les votes qui ont émaillé la voie bilatérale avec Bruxelles l'ont été à la majorité simple du peuple, un choix qui fâche les conservateurs de l'UDC comme le député Manfred Buller.
Ces accords vont nous obliger de reprendre automatiquement le droit décidé à Bruxelles. Il s'agit donc d'une atteinte au fondement même de la souveraineté de la Suisse et ce point-là ne saurait être voté à une majorité simple.
Sa collègue socialiste, Laurence Fellmann-Riel, est-elle convaincue par la décision du gouvernement ?
Il me semble important que tous les citoyens suisses puissent avoir le même poids. Or, quand on a la double majorité, eh bien, il y a les citoyens de petits cantons qui ont plus de poids que les citoyens qui appartiennent à des grands cantons.
Car oui, si le gouvernement avait choisi la double majorité, le nom d'un seul Appenzellois vaudrait en effet autant que le oui de 39 Zurichois.
Pierre-Anne Chauffat pour la Radio-Télévision Suisse.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Des années de travaux et de discussions, une vraie saga, mais cette fois, ça y est, le tram a été inauguré en ce début de semaine à Liège, en Wallonie, en Belgique. Et les Liégeois étaient plutôt enthousiastes et curieux de découvrir ce nouveau mode de transport, Jacques.
Fini les bus dans le centre-ville, place un convoi de 45 mètres, tout de noir et de gris, en souvenir du passé sidérurgique de Liège. Et malgré l'heure matinale, 4h20, ils étaient déjà des dizaines au rendez-vous de la première rame.
Bienvenue à bord de ce premier tram. Je vous souhaite un bon voyage pour ce premier aller.
Les travaux ont duré plusieurs années, occasionnant de nombreux embarras, impacts sur la circulation, le stationnement, les commerces, un parcours de 11 km 700, une mise en service plusieurs fois reportée. Mais pour cette première sortie, les Liégeois sont au rendez-vous, curieux et plutôt enthousiastes.
Et c'est beaucoup mieux que les bus. Et quand on est à l'intérieur, on est bien. Hein. Franchement, c'est tout beau, tout nouveau. On est bien assis. On ne sent pas les bosses. Moi, j'adore. Je suis contente, moi.
Les plaisirs de la découverte n'ont cependant pas empêché des petits problèmes de jeunesse et quand le tram tombe en panne ou connaît des dysfonctionnements, retour au bon vieux bus pour proposer des navettes aux passagers.
Premier trajet jusque Coromeuse, magnifique, à peine 40 minutes. Alors le retour, pardon. Ici, on est placé généralement, donc on est encore loin du standard. Et il nous a déjà fallu 1h40 pour revenir.
Dans les prochains jours et semaines, le tram va monter en puissance et on l'espère en assurance. Liège rejoint ainsi les nombreuses villes européennes qui, comme Bruxelles, Strasbourg, Lisbonne ou Budapest, font confiance à ce mode de transport de grande capacité et moins polluant.
Enfin, la fête du travail, c'était ce 1er mai, jeudi dernier, dans de nombreux pays, un jour férié, mais pas partout, pas en Suisse par exemple, ou au Canada où la fête du travail, c'est le 1er septembre. En France, par contre, c'est bien un jour férié et beaucoup de commerçants se sont interrogés cette année, ouvrir ou rester fermé, parce qu'en fait, il y a des règles. La semaine dernière, par exemple, un boulanger parisien a fait l'actualité. Il est menacé d'une amende de près de 80 000 euros pour avoir fait travailler ses salariés le jour de la fête du travail. travail, c'était il y a 4 ans. Concrètement, en fait, dans le Code du travail, les patrons ont le droit d'ouvrir leur commerce, mais pas d'embaucher des salariés. Seuls les commerces qui permettent d'assurer ce qu'on appelle une continuité minimum de la vie en société peuvent le faire. Pour les supérettes ou les restaurants, ça marche. Mais pour d'autres commerces, comme les fleuristes ou les coiffeurs, eh bien, on est dans le flou, comme l'a constaté Jules Hausse à Chambéry pour Ici, Pays de Savoie.
Ça fait 22 ans qu'elle s'est installée en tant que fleuriste à Chambéry, mais c'est la première fois que Rachel se pose la question d'ouvrir le 1er mai.
On découvre, en fait. Moi, à aucun moment, en 22 ans, on s'est posé la question. On est fleuriste, on vend du muguet, on ouvre le 1er mai. Moi, j'ai 4 personnes ici, j'ai 2 salariés, 2 apprentis. Je vais peut-être en prendre que 2 avec moi, puis les clients attendront. On manquera pas de leur dire pourquoi ils attendent.
Hein. Du sécateur à la tondeuse, le problème est le même. Bilel, coiffeur et barbier, remplit son salon avec ses 2 salariés presque tous les jours fériés de l'année, 1er mai compris, mais pas cette année.
Parce que s'il me chope avec un coiffeur, avec, j'ai entendu minimum, ça sera 1500 euros d'amende. Voilà. Mais après, je comprends pas. Les snacks, ils ont le droit d'ouvrir. Après, la fin du mois, c'est nous qui on sait si on arrive ou on n'arrive pas.
Reportage de Jules Hausse pour Ici, Pays de Savoie. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous de l'Action des Autres. Les médias francophones publics vous retrouvent avec plaisir la semaine prochaine à la même heure. Excellente fin de semaine.